en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un livre d'ombre et de lumière, une histoire de feu sacré et de ténèbres morbides, duquel surgissent une violence inouïe et une sensualité à la fois divine et ensorcelante. Entre désir et érotisme, entre souffrance et jouissance, entre mystère et vérité, l'auteur nous peint au pinceau et au couteau le tableau d'une vie en clair-obscur, celle du maître du genre Le Caravage, peintre reconnu et protégé par les prélats, mais aussi ami des prostituées, mort dans la misère et la solitude, habitué des palais, mais aussi des bouges et autres tavernes, assassin condamné à mort, mais aussi chevalier de l'ordre de Malte. Et à travers ces mots, notre invité Yannick Hennel nous fait aussi entrer dans l'intimité de l'acte créateur, celui de la peinture et celui de l'écriture. La solitude Caravage de Yannick Hennel est paru chez Fayard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Yannick Hennel.
Bonjour.
Tout commence par une rencontre avec une femme, un après-midi, dans la bibliothèque du Prytanée militaire de La Flèche, dans le département de la Sarthe, établissement prestigieux s'il en est. Vous avez 15 ans à cette époque-là, vous êtes pensionnaire de cette école d'élite, vous parcourez un ouvrage sur la peinture italienne et...
Là c'est le coup de foudre. J'ai l'impression à 15 ans d'avoir trouvé ce que les psychanalystes appellent l'objet de mon désir. Parfois, on peut mettre une vie à non seulement le trouver, mais le chercher. Et là, quelque chose m'a été donné. Ça n'était pas une vraie femme, mais c'était mieux qu'une vraie femme, si je puis dire. C'était une figure peinte. Et j'ignorais absolument le nom du tableau, j'ignorais absolument le nom du peintre. C'était un ouvrage de vulgarisation, vous voyez là. Les meilleurs tableaux de la peinture italienne, quelque chose comme ça. Mais il n'empêche que j'allais le regarder tous les jours après le cours, enfin avant d'aller à l'étude, puisqu'on était enfermé dans ce pensionnat. J'avais la tête rasée et le treillis dans les années 80. C'était assez étrange, comme c'est une sorte de Carmel militaire. Mmh. Et voilà, ça a été mon premier choc, à la fois esthétique et érotique.
Qu'est-ce qui vous a attiré, puisqu'on parle d'érotisme dans cette image?
Mais vous avez raison, l'érotisme, c'est toujours précis. Alors, c'est un détail. C'est le froncement des sourcils de cette jeune personne qui correspondait au froncement de son corsage. Vous savez, le corsage était très serré sur sa gorge, sur sa poitrine. Et il y avait quelque chose dans cette manière d'être serré, d'être presque ligoté au fond, qui me parlait. Moi-même, j'étais ligoté par un désir bien trop grand pour moi à 15 ans. Voilà, c'était ça, c'était ce détail.
Mais comment est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos mots la relation, parce qu'il y a une vraie relation finalement qui naît à ce moment-là, entre le jeune garçon de 15 ans que vous étiez et cette image-là? C'est une relation presque amoureuse?
Mais oui, on peut dire ça. Moi, vous savez, je fais partie de ces gens qui ont toujours une femme en tête. Voilà. Cette femme peut être imaginaire, elle est toujours la même et toujours autre. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que comment dire ça? Mes désarrois étaient rachetés à chaque instant, le soir, où j'avais dérobé aussi cette image pour l'avoir avec moi.
Mais parce qu'il y a aussi le goût de l'interdit, hein, quand on a 15 ans, et quand on a le droit ou pas vraiment le droit de regarder les femmes, il y a aussi cette notion d'interdit-là qui vient renforcer encore ce désir, qui est l'un des premiers mots d'ailleurs qui vient sous votre plume.
Absolument, mais j'avais même un petit dispositif où, comme l'extinction des feux, comme on dit dans ce genre d'établissement, était très, 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 très tôt le soir. Alors mon père m'avait bricolé d'ailleurs une petite lampe que j'accrochais au livre, c'était pour lire, mais en fait je l'accrochais souvent à cette image que j'avais voulue, qui était en noir et blanc en plus. Et donc cette relation, pour répondre à votre question, était une relation d'obsession et d'amour, comme le croyant regarderait son dieu ou sa déesse. Alors moi je regardais une figure que je vénérais en fait, et qui me faisait penser. Elle me faisait penser. Elle est elle-même pensive et je me demandais à quoi elle pensait. Je ne savais pas ce qu'il y avait au bout de ses bras qu'elle tendait.
C'est-à-dire que cette image était une porte ouverte vers votre imaginaire, vers vos fantasmes aussi peut-être?
Voilà, fantasmes. Alors je me souviens plus très bien, mais j'imagine. Oui, je pense qu'à 15 ans, on a l'imagination bien débridée, on attend tout de la vie. Et surtout quelque chose qui apparaissait. Vous savez, une apparition, c'est ce qui nous comble. Elle venait non pas créer un manque, mais elle venait combler. C'est quand même stupéfiant, ça. Et pour moi, j'ai assigné à la peinture, à l'art en général, et même et à l'écriture plus tard, cette vertu-là de sublimer et de combler.
D'ailleurs, vous passez de façon extrêmement naturelle, finalement, de la peinture à l'écriture. Vous écrivez, Yannick Haenel, écrire et désirer, parce que le jalon, la charnière entre la peinture et l'écriture, c'est justement cette notion de désir. Vous écrivez, écrire et désirer sont des activités qui se confondent.
Oui, je pense que la matière même de l'écriture, cette substance un peu étrange, n'a rien à voir avec le langage de la communication. C'est un lieu, c'est une matière, une texture très sensuelle qui se rapproche pour moi de la manière dont sont fabriqués les tableaux avec des pigments et qui se rapproche de ce qu'on cherche dans les corps qu'on désire, tout simplement. Vous voyez, quelque chose qui est à la fois impalpable et très concret. L'écriture, pour moi, c'est un lieu à la fois de poétisation, un lieu abstrait, et c'est le monde lui-même, enfin... Pour moi, vivre, ça ne va pas sans dire. Aimer, ça ne va pas sans dire. Désirer, ça ne va pas sans dire. Il faut trouver les mots. Et face à des tableaux, là, et même déjà à 15 ans dans mon petit pensionnat, face à cette femme, j'ai essayé de trouver les mots pour la... Pas tellement pour lui parler, je savais bien qu'elle ne serait jamais à moi, mais pour trouver ce qu'était son secret, sa singularité.
Alors, trouver les mots, c'est ce que vous avez fait pour écrire ce livre. Est-ce que écrire un livre, on n'est pas tout à fait dans le roman, on est plus dans le récit, Yannick Haenel, mais écrire un récit, est-ce que ça revient à composer un tableau?
Je me suis posé la question, évidemment, c'est l'un des objets du livre, l'un des sujets même, vous l'avez vu. Enfin, c'est, évidemment, ça n'est pas la même chose, mais je tends vers ça. Moi, je ne suis pas un conteur. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui pense le monde en termes d'histoire, même si...
Ah, il y en a une.
D'histoire. Voilà,
il y en a plusieurs, d'ailleurs.
Il y en a plusieurs qui s'enchevêtrent. Mais justement, je vois les choses toujours en termes de tableaux, peut-être même de choses, d'un tableau qu'on sculpterait avec des phrases, vous voyez. Et donc, ça s'écrit de tous les côtés. Comme un peintre qui peut-être, alors là, la comparaison pourrait être juste, comme un peintre qui ne va pas forcément, et je sais que le Caravage faisait comme ça, qui ne va pas forcément peindre de gauche à droite ou de droite à gauche, mais morceau par morceau, dans tout le tableau, depuis, par exemple, un peintre comme Francis Bacon, dont je pense qu'il est l'un des grands héritiers du Caravage, un peintre très violent, enfin très sexuel aussi, il commençait par le trou de la bouche, par le cri. Et il créait la tête et le corps, éventuellement, depuis la bouche. Et si ça marchait pas, il jetait le tableau.
Et vous avez commencé par l'image de cette femme dont on n'a toujours pas donné le nom parce que donc il faut attendre la page 35 du livre pour découvrir de qui il s'agit. On va encore garder quelques instants le suspense. Et avant que vous ne leviez le voile, Yannick Haenel, je voudrais que vous nous parliez des deux compagnons de route que vous avez choisis pour suivre ce chemin avec le lecteur. Deux poètes. Charles Baudelaire, qui était aussi critique d'art, que vous citez à de multiples reprises, et surtout Rimbaud, Arthur Rimbaud, le Rimbaud des illuminations notamment. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces deux compagnons de route-là?
Alors Rimbaud, pour commencer, c'est une rencontre foudroyante, tout comme celle de cette jeune femme, cette figure peinte du Caravage. Rimbaud, c'est ce qui m'a sauvé la vie, en fait. Dans ce pensionnat militaire, vous imaginez bien que l'étrangeté de se retrouver adolescent face au langage du commandement, voilà, face aux ordres, face à l'autorité. Et en découvrant les illuminations de Rimbaud, j'ai découvert évidemment une autre manière de composer, comme vous dites, de jouer et de jouir avec le langage. J'ai même su à une époque les 34 illuminations par cœur. Malheureusement, j'ai plus 15 ans et j'ai oublié. Mais voilà, c'est un texte qui s'est infusé. Pour moi, la littérature, c'est une prise directe au fond. C'est presque un court-circuitage. La vie s'améliore, l'existence devient folle et belle grâce à un texte. Et puis Rimbaud, c'est l'extase. Voilà. J'ai appris avec Rimbaud que peut-être l'existence ne devenait belle et désirable qu'à se convulser, qu'à devenir quelque chose qu'elle n'est pas d'emblée, enfin à devenir électrique, à devenir frénétique. Et voilà. Pour Baudelaire, c'est autre chose. Baudelaire, les fleurs du mal, on est dans le vénéneux, là, on est dans dans l'apprentissage du mal aussi. Il y a quelque chose d'un peu démoniaque, de satanique même. Il y a des litanies à Satan dans Baudelaire. Alors effectivement, je lisais ça comme un fou dans mon dortoir la nuit au lycée. Et pour moi, Baudelaire, c'est devenu quelqu'un qui m'accompagne maintenant. En composant ce livre, vous avez raison, je suis heureux que vous mettiez l'accent sur ces deux poètes. Ils sortent comme ça de mon corps, enfin, et de mon cœur. Je connais des phrases par cœur. Et Baudelaire, c'est quelqu'un qui a dit que pour lui, il y avait trois êtres respectables. Je crois que je le cite dans le livre. Il y a trois êtres respectables. C'est le prêtre, le guerrier et le poète. Ce qui correspond aux trois grandes actions pour lui universelles, savoir, tuer, créer. Et je me suis dit, tiens, le Caravage, c'est un prêtre, peut-être on va en parler, évidemment que c'était quelqu'un de très anti-religieux, mais c'est aussi un prêtre ésotérique, parce que il ordonne à travers ses tableaux des mystères obscurs, vous en avez très bien parlé au début de l'émission. C'est aussi un guerrier, parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de se battre, au fond. Il adore fréquenter les bouges la nuit, il se bat pour sa peinture aussi contre ses concurrents. Et c'est aussi un poète, parce qu'il peint de manière inspirée, voilà. Donc être les trois ensemble, en lisant Baudelaire très jeune, je me suis dit, mais tiens, voilà ce que c'est qu'être un homme, c'est être les trois à la fois.
Quelques mesures de la Giuditta du compositeur baroque italien Domenico Scarlatti sur RFI. La Giuditta, c'est Judith, et point de suspense, Yannick Enel, c'est bien Judith, hein, cette femme mystérieuse c'est que bien. Vous avez découvert dans ce livre consacré à la peinture italienne, sauf que vous n'avez su de qui il s'agissait que 15 ans après. Alors ça semble complètement fou hein, quand même dans l'histoire d'aujourd'hui. À ce moment-là, vous visitez le Palazzo Barberini à Rome. Donc il y a eu le premier choc à 15 ans dans le Prytanée militaire, et puis là il y a le second choc, vous découvrez subitement non seulement de qui il s'agit, mais vous découvrez l'ensemble du tableau.
Effectivement, ça a été un double choc, dans la mesure où, comme vous le savez, cette Judith, dont je me demandais bien ce qu'elle tenait à bout de bras, est en train de décapiter un homme. Elle tue un général assyrien qui s'est raconté dans la Bible, en fait. Voilà, c'est le livre de Judith, qui assiégeait une ville juive.
Béthulie.
Et Judith se sacrifie, si je puis dire. Elle vient de perdre dans la bataille son mari. Et elle va franchir les lignes. Elle va entrer dans la tente du général en chef de l'armée assyrienne. Elle va le séduire. Et profitant d'un soir d'ivresse du général, C'est assez ambigu si elle se donne à lui ou pas. Enfin bon, là, profitant de l'ivresse de d'Holoferne, puisque c'est son nom, elle le décapite. Et en général, dans la peinture classique, on représente la scène soit avant, soit après, c'est-à-dire Judith tenant la tête triomphalement de l'ennemi. Mais là, pour la première fois dans la peinture, donc en 1595 à peu près, on ne sait pas trop, 95-98, on voit l'acte même. Elle est en train de découper la tête de cet homme en lui tenant de l'autre main les cheveux. Et évidemment, moi qui avais tellement fantasmé, qui avais tellement tremblé de désir tous les soirs pour cette femme, je me rendais compte d'une part que c'était une assassine, et que d'autre part, ce qu'elle faisait à un homme, ce que je pensais qu'elle m'avait fait en fait, eh ben c'est qu'elle le tuait. Donc je n'ai pas eu de mal à me, enfin je veux dire par là qu'en quelques secondes j'ai compris que l'homme qu'elle tuait c'était moi.
Mais alors, est-ce à dire Yannick Enel que à partir de ce moment-là vous avez regardé cette femme, vous avez regardé ce tableau d'une manière différente, ou est-ce qu'au fond ça n'a pas tellement changé votre regard?
Ça n'a rien changé, sauf qu'à 30 ans, j'ai compris, j'étais un benêt en fait. J'ai compris que l'amour et la mort allaient de pair, enfin que désirer, c'était aussi entrer peut-être d'une certaine manière dans sa perte. Et il y avait une sorte de parabole cachée, dont le temps qui m'avait été réservé, 15 ans c'est beaucoup, vous avez raison, ce temps m'était destiné, le temps pour comprendre, comme dit Freud. Alors là, c'était, j'ai pas fait exprès, c'est juste que j'avais totalement oublié ce tableau au fil du temps, et puis encore une fois, je ne savais pas à 15 ans que c'était un Caravage, et donc je suis tombé dessus. Ça n'a rien changé, effectivement, pour vous répondre, mais en tous les cas, ça a modifié considérablement ma vie, puisque pour la seconde fois, je voyais un tableau, cette fois-ci je le voyais complètement, et surtout j'étais saisi par la peinture elle-même. Je n'ai plus arrêté de regarder de la peinture, et plus précisément le Caravage.
Vous allez dévorer, hein, je crois que c'est le mot que vous utilisez, tout ce qui se passe sous, tout ce qui vous passe sous les yeux, hein, du Caravage. C'est dans ce moment-là que vous vous dites, je vais écrire un livre sur ce peintre, en partant de ce tableau?
Mais pas vraiment, pas à 30 ans, parce qu'à 30 ans, j'essayais d'écrire depuis longtemps. Vers 30 ans, j'ai publié mon premier roman, mais non, cette nuit-là, je me nourris de tout ce que je peux, du Caravage. Je passe la nuit, c'est une nuit assez transfigurée, comme dirait Schoenberg, une nuit folle, enfin une nuit blanche d'ailleurs. Je regarde des tableaux du Caravage comme ça sur des catalogues que j'ai achetés à tour de bras, et là quelque chose effectivement est né qui va donner lieu, oui, bien des années plus tard, à un livre. Non, écrire sur la peinture, franchement, je crois que c'est ce qui est le plus dur. Et donc à 30 ans, c'était, j'essayais, je balbutiais mon premier roman, j'étais franchement pas à la hauteur.
Alors le chapitre 10 du livre est intitulé « Tout le Caravage ». Il fait un peu moins de 4 pages, il est divisé en 2 paragraphes seulement. On a mis en nombre le premier, il fait une seule phrase, hein, qui commence à la page 44.
C'est le monde entier. Ce sont des poires, des figues, des prunes, des iris, des œillets, des jasmins, du genêt, de la vigne, des gouttes de rosée, la corde cassée d'un luth, un miroir et une carafe, une corbeille débordant de raisins, un garçonnet en chemise blanche qui pèle un fruit, un sabre taché de sang, des couteaux, des violons, tout un monde rouge et torturé qui étincelle. Et voici d'autres lumières, d'autres ombres, Saint-Paul désarçonné, Isaac le couteau sous la gorge, un Baptiste buvant à la fontaine et Salomé portant sa tête dans un plat. Jean-Baptiste, encore lui, hilare et jeune, enlaçant un bouc, puis une tablée de joueurs de cartes agitée de tricheurs, des pèlerins, des apôtres, des fossoyeurs, des bourreaux, quelques anges qui sourient, une croix, des culs, des seins, des épaules dénudées, des lèvres qui séduisent, une diseuse de bonne aventure, une petite sainte en pleurs, des reflets qui vous ouvrent au ciel, au Dieu qui resplendit ou qui s'éteint, des éclats de ciel noir, des éclats de ciel rouge, des éclats de rien, une perle nouée d'un papillon noir, un flacon abandonné, un collier, des brocarts bleus et verts, des robes de courtisane, des bergers, des Bacchus repus et charmeurs, et mêlés à la passion du Christ des trognes de bourreaux qui s'acharnent, grimaces et flagelles, des ermites qui écrivent, un crâne à la main, drapé de rouge, des ramures d'automne desséchées jaune et ocre, un bouc, un agneau, un âne et des molènes, une vierge qui endort l'enfant au son du violon d'un ange, un petit gobelet qui rappelle le baptême où je n'en finis plus de boire en rêve, Une jeune larme qui coule sur la joue d'une Madeleine inconsolable. Quelques boutons de nacre, une écuelle et des ombres violettes, des bouches qui crient, du sang qui coule, des chapeaux à plumes qui flamboient et des pourpoints rayés de jaune, des gants percés, des cartes biseautées, des têtes empanachées, des têtes coupées, de belles dames au regard qui fuit. Des vauriens grimés en petits dieux, l'un arborant une couronne de laurier, une coupe de vin noir à la main, l'autre le visage vert d'un Bacchus malade, un autre encore mordu par un lézard et qui geint comme un petit porc. Et de nouveau le rondouillard, avec son air vicieux d'empereur dans l'orgie. Et de nouveau la splendeur qui vous chavire. Le Christ mort est pourtant plus vivant que nous tous. Et l'œil d'Isaac effaré sous le couteau, et l'ombre insensée, la clarté qui tue. Un tabouret qui vacille au bord du vide, sous le poids de Matthieu, écrivant son évangile. Et lorsqu'on ferme les yeux, tous les détails qui vibrent et glissent d'un tableau vers l'autre. La vision qui se brouille juste avant la joie. Et voici, dans un éclair abrupt, comme une apparition. La Vierge allongée, morte, au-dessous d'un drap rouge où s'enveloppe en silence le nom secret de toute présence. Ses pieds nus qui dépassent, fragiles comme en lévitation. Et le baquet au bas du lit où l'on devine l'éponge, l'eau usée, la merde, le crâne de Goliath, le reflet de Narcisse. David torse nu brandissant la tête du Caravage. Le cri rond de Méduse, la croupe blanche d'un cheval. Des pieds sales, des ongles noirs, la roue dentée de Catherine, le corps percé du Christ. Un serpent écrasé, un ange au sexe heureux, de nouveau des saints qui écrivent, et le Christ à la colonne, le Christ capturé, le Christ couronné, le Christ renié par Pierre, flagellé, déposé au tombeau, et son bras levé vers Matthieu qui sépare la lumière et les ténèbres, qui conçoit comme un peintre la matière des choses, un mélange, une pâte, un prisme, et avec les couleurs, voici de nouveau le visible en extase, la joie d'un amour victorieux, la main de Saint Ursule caressant la flèche qui la transperce, Saint François s'évanouissant entre les bras d'un ange. Puis de nouveau Isaac, Salomé, Judith, la Vierge et l'Enfant, Jean-Baptiste, des draps rouges, des draps blancs, un crâne et des feuillages. La chair qui, en jouissant, éclaire notre vertige. Une pluie dorée, imprégnant un corsage, une semence inconnue qui se mêle au pigment et fait naître la peinture. Et à travers tous ces corps, toutes ces choses, une seule lumière, discrète, insistante, sacrée, qui prend mille apparences et ne brille que pour vous. L'éclat de l'être aimé qui s'annonce et disparaît en silence, comme font les dieux, les déesses, et qui, en se dissipant dans la fatigue de cette nuit, vous comble comme le plus réussi des baisers.
Un seul paragraphe, hein. Yannick Enel, une seule phrase.
Oui.
Une curiosité de lecteur pour commencer, c'est ces quatre pages qui annoncent au fond tout le reste du livre. Vous les avez écrites comme ça, au fil de la plume, avant tout le reste, ou ce sont les dernières lignes que vous avez écrites?
Non, je m'en souviens très bien, je les ai écrites de nuit, assez tôt dans la composition du livre, peut-être pas exactement là où elles sont, mais à un moment où j'étais bien dans le livre, et je les ai écrites, j'écris à la main, moi, je suis un peu old school,
oui, j'écris sur des cahiers. Ce qui rappelle le geste du peintre, d'ailleurs.
Absolument, mais c'est très juste, oui, c'est la main, enfin, c'est la main qui troue les ténèbres, qui traverse le mur, et j'ai écrit ça d'une traite. Je dis pas qu'il n'y a pas eu plein de ratures, hein. J'ai ça sur un cahier, bon, je l'ai pas apporté là. Il y a eu plein de ratures, plein de reprises, mais c'est un texte qui effectivement m'amenait dans la nuit. Je sais pas ce qui m'a pris, à 50 ans, je me suis remis comme un jeune écrivain à écrire toute la nuit.
Ouais.
Je crois que c'est pour aller avec le noir du Caravage, sans doute. Et je n'ai pas pu m'arrêter, cette phrase. Je voulais, pour jouer, mettre tout le Caravage, tout ce qui me passait par la tête, parce que je me souviens de cette nuit-là, je me suis dit, tiens, si je parlais à quelqu'un du Caravage et de toutes ces étincelles sensuelles, de tous ces détails, qu'est-ce qui me viendrait à l'esprit? Et je n'ai pas pu m'arrêter, et ça fait 4 pages, effectivement.
Voilà, et effectivement, tout le reste du livre est déjà résumé, d'une
c'est
certaine
très
façon,
juste, hein,
dans ce chapitre 10.
Je ne me l'étais pas dit comme ça, vous avez raison.
Mais alors, cette frénésie, vous venez d'employer ce mot-là, ce bouillonnement, hein, qui est un bouillonnement de mots, il rappelle aussi un peu la façon dont le Caravage a vécu. Vous utilisez le mot frénétique, d'ailleurs vous utilisez aussi le terme d'enragé, hein,
oui,
pour décrire sa façon d'être au monde.
Oui, oui. Je crois que je suis moins violent que lui. Hein,
oui, mais... j'espère pour vous, mais pour votre entourage.
Oui, oui, vous en faites pas. Mais de fait, c'est vrai que regarder la peinture, je dis regarder la peinture, je le dis avec une sorte d'amour pour une chose féminine, la peinture. Regarder la peinture, c'est se rendre disponible à une forme de contemplation, c'est la chose la plus calme du monde. Mais pour moi, c'est aussi l'acte le plus bouillant. Je pense que c'est pas du sang froid qu'on a quand on quand on réussit à avoir un face-à-face avec la peinture, c'est pas si évident. Parfois, on est là, face à de la peinture, on se sent ailleurs, on se sent morne, puis la peinture nous parle pas. Mais quand ça nous parle, là, j'ose le dire, j'ai pas honte de le dire, c'est comme une étreinte sexuelle, au fond. Il y a quelque chose de l'ordre d'une réussite. Voilà. Et moi, ce que j'aime dans la vie, entre autres, il n'y a pas que ça qui m'anime, mais c'est passer beaucoup de temps avec un tableau. C'est pas seulement dans les expositions qui sont de plus en plus, de moins en moins possibles, au fond. Moi, j'y vais parce que j'aime ça, mais on peut pas rester plus de 30 secondes. Il y a une pression, il y a beaucoup de gens. Et c'est pas en 30 secondes qu'on regarde un tableau, effectivement.
Alors, comment on regarde un tableau, précisément? Ça veut dire quoi? Pas seulement regarder, ça veut dire quoi? Voir un tableau.
Alors. Moi, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit.
Mais comment est-ce que vous, ben voilà, vous le regardez, comment est-ce que vous le voyez?
Oui, de fait, ça, c'est une forme d'expérience qu'on a, comme quand on dit, j'ai fait une expérience. Encore une fois, ça marche pas à tous les coups, mais ça relève d'une forme de patience. Et aussi de, j'allais dire encore, oui, j'ose le mot, de désir. Enfin, je cherche quelque chose. Alors avec Judith, c'est évident parce qu'elle a déjà quelque chose à offrir, si je puis dire, depuis son corps, mais dans la figuration. Mais ça peut très bien être, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un tableau que j'aime beaucoup, qui est à Potsdam. C'est l'incrédulité de saint Thomas. Tableau ahurissant. Vous avez le Christ qui offre son corps au doigt de saint Thomas, et on voit le doigt qui s'enfonce dans la plaie, c'est un tableau qui a été souvent fait, enfin, souvent illustré, cet épisode, mais jamais on a vu un doigt entrer dans un trou comme ça. On a l'impression, ça saute aux yeux, et pas besoin d'avoir lu de l'histoire de l'art pendant 30 ans, on voit très bien que c'est le pinceau du peintre. On voit très bien aussi qu'il y a quelque chose de très dérangeant, de très sexuel, il y a une pénétration là. On voit aussi que ce tableau, qui a l'air très profane, avec ces trognes-là, des apôtres autour, qui n'en reviennent pas, c'est aussi ce qu'il y a de plus sacré. Et je crois que c'est ça qu'il y a de beau dans la possibilité de rencontrer un tableau. Voilà, c'est une rencontre. C'est de se rendre disponible à la fois au plus profane, au plus cru, à ce qu'il y a même de sauvage ou de malséant, et aussi d'entrer dans quelque chose, qu'on le veuille ou non, qu'on s'y attende ou pas, d'entrer dans quelque chose de sacré.
Vous m'en direz des nouvelles? Sur RFI.
Avec Yannick Enel qui publie La Solitude Caravage aux éditions Fayard dans la collection qui s'appelle Des Vies, une collection biographique. Donc, comme son nom l'indique, et le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie du Caravage mérite le pluriel, hein, parce qu'elle est vraiment riche en péripéties. On se dit que c'est un fabuleux personnage de roman. Alors, on va pas la raconter en détail, mais c'est quand même une vie, très riche, je le disais, en même temps très, très brève, très rapide, puisqu'il va mourir à 39 ans, en laissant une soixantaine de tableaux, hein, Yannick Enel. Oui. Il va mourir dans la misère et la solitude, alors qu'il a fréquenté beaucoup de palais, alors qu'il a été protégé par un certain nombre de mécènes extrêmement puissants. Alors, vous racontez tout cela de façon à la fois très précise et très succincte, presque fugace. En fait, ce qui vous intéresse le plus, Yannick Enel, c'est pas tellement la vie du héros Caravage, c'est l'homme de l'intérieur. En quelque sorte.
Oui, c'est un aventurier. Bon, j'ai raconté à peu près tout ce qu'on peut raconter, mais c'est vrai que je le fais au galop pour peut-être m'accorder à la rythmique du Caravage. C'est une vie qui file. Enfin, bon, c'est quelqu'un qui dormait pas. Il peignait de manière frénétique. Et il se battait, il buvait, il fréquentait toutes sortes de personnages, effectivement, dans la nuit romaine. Mais ce qui m'intéresse, vous avez raison, c'est l'expérience intérieure. L'expérience intérieure d'un artiste. Je veux dire, pas seulement son rapport avec le sacré, qui est un rapport très ambigu, hein, comme pour Pasolini, par exemple. On pourrait rapprocher ces deux-là, le Caravage et Pasolini. Mais c'est ce qui a lieu pendant des heures et des heures et des heures, jour et nuit, quand on peint. Parce qu'il faut pas oublier, effectivement, le Caravage a l'air d'une espèce de voyou, hein, voyou intello, on dirait,
mais, oui.
Qui éparpille sa vie, sauf qu'il passe les trois quarts de sa vie à peindre. tout seul dans son atelier, en allant chercher des modèles dans la rue. C'est le premier à avoir mis des prostituées devant lui et en les peignant dans le rôle de sainte. Et ou des petits gitons comme ça qui se baladaient, il en fait des Dionysos, des Bacchus. Mais c'est le travail, c'est la manière dont il va travailler les pigments. Il n'a pas de disciple, il n'a pas vraiment d'atelier, on n'a pas de renseignements sur la manière dont il procède, et il a l'air de réinventer la peinture après le Titien, et surtout de mettre fin à quelque chose qu'on a appelé la Renaissance, où l'on idéalisait les corps selon des principes d'harmonie du cosmos, auxquels plus personne ne croit au moment où le Caravage arrive. Il y a eu des pestes qui sont passées par là, il y a eu le sac de Rome. Donc quand le XVIe s'achève, quand on arrive en 1595, mais le Caravage est exactement le peintre qui va peindre à la fois ce désenchantement-là, l'obscurcissement du monde. Et il met des fonds noirs d'où les corps semblent surgir comme des spectres trépidants. Et puis il va peindre enfin peut-être, et ça me semble crucial, l'arrivée de la rue dans l'art, l'arrivée du peuple finalement, on pourrait dire ça. Et c'est à la fois un peintre très très noble. C'est pas un noble socialement, hein, mais au sens de où ses sujets sont. Enfin, personne n'a jamais peint Jésus comme ça, enfin, à mon sens, enfin, c'est inouï. Enfin, on pourrait se mettre à croire devant un tableau du Caravage. Enfin, il peut nous arriver comme ça des accès de foi face au tableau terrible qui représente l'Évangile. Et en même temps, c'est un peintre très goguenard, très ironique, très sexué, enfin, avec des messages codés, des un peu grivois aussi. Et j'aime bien ce paradoxe, enfin, j'aime bien qu'il soit les deux. Le lapsus, j'ai dit les dieux.
Alors, c'est vrai que parmi les tableaux que vous évoquez, il y en a, par exemple, lorsqu'il peint les fruits. Là, on est vraiment aussi, justement, à la fois dans cette plénitude, dans cette jouissance et dans cette ironie-là. Il y a un tableau, par exemple, que vous citez qui s'appelle Garçon mordu par un lézard. Oui. Alors, celui-ci, il dit beaucoup.
Ben, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand le Caravage, au départ, il peignait comme ça dans la rue, il vendait ses tableaux comme un petit gars vendrait 10 euros son tableau. Alors, aujourd'hui, il ne vendrait pas un tableau. Hein. Et pour s'imposer, pour affirmer son style, et personne ne sait, aucun historien de l'art ne sait comment c'est arrivé. Enfin, dès son premier tableau, c'est un génie. J'ai quelques hypothèses dans le livre, mais bon, ce ne sont que des hypothèses. Au moment où il s'affirme, c'est avec 5 ou 6 tableaux où il prend des visages, des corps de jeunes garçons. On dirait un peu, ils sont très troublants sexuellement. Ce sont des tableaux très qui ont l'air un peu homosexuels, même si on ne sait pas si le Caravage était homo. Moi, je pense qu'il était bisexuel. Et puis, en même temps, ces histoires, à la fin, on s'en fiche un peu. Et ce sont des tableaux qui d'une part, où il y a des jeunes gens qui défient la représentation, qui nous regardent crûment. Ils semblent nous inviter à venir avec eux se vautrer.
Il y a une vraie tension sexuelle, en fait.
Ah, mais ça fait aucun doute. Et en même temps, ils se payent notre tête. Il y a quelque chose, si je puis me permettre, à l'antenne, qui semble dire à chaque instant, allez vous faire foutre.
Et ce garçon mordu par un lézard, il y a d'ailleurs le doigt du personnage. Qui correspond tout à fait à ce que vous venez de décrire.
Voilà. Je suis pas le seul à le dire, il y a des historiens qui le disent depuis longtemps. Il y a quelque chose de caché, de très joueur dans la première manière du Caravage, où il joue avec les codes, avec la manière dont on représente normalement le corps des hommes. Mais là, il va un tout petit peu plus loin. Et sa moquerie est prodigieusement amusante et surtout très belle.
Clair, obscur, je n'aime rien tant que la fêlure qui lézarde le mur de sa résistance. Il est pur comme un cristal, transparent, idéal. Quand j'y pense et je me tiens. piégé par le mur de ses apparences.
Claire Obscure, Françoise Hardy dans VMDN sur RFI avec notre invité Yannick Enel qui publie La Solitude Caravage aux éditions Fayard. Claire Obscure, sans doute les mots auxquels chacun pense instantanément quand on évoque le Caravage. Décrivez-nous avec vos mots à vous, Yannick Enel, le noir et la lumière qui émanent d'étoiles du maître.
Écoutez, je vous invite là, avec des mots, à vous précipiter. Je vais tenter de vous précipiter à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français. Vous entrez, et il y a tout au fond à gauche une chapelle. Et il y a, entre autres, il y a trois tableaux qui parlent du cycle de Saint-Matthieu. Et regardez celui de gauche. Il y a quelques personnes qui sont dans un tripot, avec des habits empanachés, orange et jaune et noir, et il y a un vieil homme barbu qui compte de l'argent. Ils ont joué, ils ont parié, et tout ça est un peu dans une pénombre qui semble dire que l'âme humaine est bien accrochée vers le bas, vers ce qui ne sortira plus de la torpeur sombre. Et sur la droite, coupant le tableau en deux avec une diagonale folle, un bras apporte de la lumière, c'est celui du Christ qui passe par là et qui désigne le vieil homme qui semble avalé par le calcul et dont le bras, en l'intimant à venir, en l'appelant, va le renommer. Cet homme s'appelait Lévi, il va s'appeler Matthieu, il va devenir l'un des apôtres. Et ce bras semble donner la possibilité de sortir du calcul, du pauvre calcul, d'être dans la grâce, autrement dit. Et ce qu'il y a de génial dans ce très beau tableau du Caravage, enfin, moi, c'est un tableau qui me retourne rien que d'y penser, là, enfin, je le vois en fermant les yeux, c'est que précisément le clair-obscur n'est pas qu'une technique, enfin, c'est pas de mettre un peu d'ombre et de lumière, c'est que ça correspond, là, en acte, à une situation, en l'occurrence évangélique, à une situation spirituelle, sortir des ténèbres. Même quand on n'est pas croyant, sont des choses qui, je pense, parlent à n'importe quel humain, enfin, sortir des ténèbres, voilà.
Alors, le tableau que vous venez de décrire, c'est la vocation de Saint-Matthieu. Et juste en face, donc dans cette chapelle qui se trouve dans l'église Saint-Louis des Français, il y a un autre tableau, le martyr de Saint-Matthieu. Et votre regard et vos mots à travers ce livre font dialoguer en fait ces deux tableaux, comme si l'une ne pouvait pas exister sans l'autre.
Mais effectivement, d'une part, c'est l'histoire de Matthieu qui est racontée à travers ces deux tableaux qui se font face, enfin, donc la naissance à l'esprit de Matthieu. Et puis, de l'autre côté, la manière dont on va l'assassiner de manière affreuse dans le temple lui-même. Enfin, voilà, ça parle de la criminalité liée à l'espèce humaine. Mais outre le fait qu'ils se suivent comme une bande dessinée, au fond, comme une bande dessinée magnifique, il y a le fait, je m'en suis aperçu finalement ces dernières années en y retournant régulièrement, il y a le fait que dans le tableau qui met en scène le meurtre de Saint Matthieu, il y a un personnage tout au fond à gauche qui regarde le tableau qui est en face. Et ce personnage, c'est le Caravage. C'est un autoportrait, il est un peu échevelé, il est un peu lourd, barbu, les cheveux longs. Et il regarde à la fois la scène de crime avec peur, une sorte d'apitoiement, comme s'il disait « pauvre monde, où c'est possible de faire ça ». Et en même temps, il y a une sorte d'impuissance parce que il est incapable d'être dans l'autre tableau, celui où on est appelé par le Christ. Et je pense que toute la vie du Caravage est déjà résumée là, il a même pas 30 ans, un peu moins. C'est l'impossibilité, le désir de se sortir du désastre, de la mauvaise vie, de l'horreur aussi, du mal. Il va même tuer quelqu'un. Enfin, le désir de se sortir de ça, du péché, tout simplement, comme on dit à l'époque. Mais aussi l'impossibilité peut-être de rejoindre complètement la grâce. Jésus, je pense, et c'est ça qui est fou chez le Caravage. Le Caravage est un rebelle. C'est un sauvage, c'est un aventurier, mais c'est aussi quelqu'un qui a une forme de piété. Je pense que l'athéisme, ça n'existe pas en 1595.
Donc c'est un personnage en clair-obscur, lui aussi.
Exactement. Mais pour lui, c'est impossible de rejoindre complètement cette luminosité, au fond. Alors on va pas évoquer tous les tableaux que vous évoquez, il y en a plein d'autres, oui. Et vraiment c'est le matériau principal du livre, Yannick Haenel. Il y a tout ce que vous avez lu à propos de ces tableaux dans les différentes biographies consacrées au peintre. Il y a surtout, encore une fois, le regard que vous-même portez sur la vie du personnage et sur ses toiles. Et à plusieurs reprises, vous prenez beaucoup vos distances, hein, finalement, avec tout ce qui a été écrit sur lui, comme si finalement vous aviez décidé de faire davantage confiance à votre sensibilité, à vous, à votre interprétation, qu'au témoignage historique des autres.
Mais je ne suis pas un savant. Je suppose qu'à force de lire des livres, à faire que ça du matin au soir, je sais des choses, mais ce sont des choses qui sont pas échangeables au fond, ce sont des choses qui affinent ma sensibilité. Et à la fin, je pense que c'est comme pour les grandes choses, c'est comme pour l'amitié, c'est comme pour l'amour. Au fond, on est là un peu nu face aux grandes choses, on est nu face aux tableaux qui se dénudent eux-mêmes. Et alors dans ce cas-là, les milliers de livres qu'on a lus sont secondaires, ils nous donnent la possibilité d'être capable de frémir. Mais moi, je pense que la grande chose, c'est de comment dire ça, de préciser sans cesse sa sensibilité. Je pense qu'on est entré dans une époque, là, j'ai l'impression que ça va durer longtemps, une époque d'épaississement de la sensibilité. On voit très bien que le langage qui tournoie partout sur la planète, que ce soit par texto ou je ne sais quoi, interposé, enfin, ce langage est pris non seulement de vitesse, moi j'aime la vitesse, mais surtout il est pris de pauvreté. Et être capable de dans sa vie, de se rendre disponible, pas seulement pour des secondes, mais pour des minutes, pour des heures, faire une véritable expérience avec les autres, avec les œuvres, mais avec les autres. Enfin, alors là, c'est quelque chose qui me semble quasi politique aujourd'hui. Se remettre à regarder pour combattre l'épaississement de la sensibilité. C'est cet épaississement de la sensibilité qui nous fait mourir tous, enfin, et qui nous fait nous refermer sur nos petites subjectivités, sur nos nations. Toutes les frontières de la sensibilité se referment parce qu'on n'est plus capable de regarder longtemps quelque chose qu'on aime, tout simplement.
Alors, Yannick Haenel, est-ce que votre susceptibilité, parfois, ne vous conduit pas aussi à peut-être un peu d'indulgence excessive vis-à-vis du Caravage? Quand vous parlez de ce meurtre, hein, donc condamné, oui, à mort en 1606 pour avoir tué un homme, vous écrivez beaucoup plus à décharge qu'à charge, comme s'il fallait réhabiliter le Caravage, Yannick Haenel.
C'est vrai que je vous avez raison. Je m'en fais aussi un peu l'avocat. Mais c'est vrai que je l'aime, le Caravage. Ceci dit, à force de chercher, parce que j'ai l'air de dire que je ne suis pas savant, mais je le suis aussi un peu.
Érudit, en tout cas.
C'est gentil. Mais je veux dire par là que je ne mets pas ça en avant, mais j'ai quand même lu à peu près tout ce qui peut s'écrire en français, en italien, sur le Caravage. Et en rassemblant la documentation, quelque chose m'a sauté aux yeux. À savoir qu'effectivement, cet être, le Caravage, il n'est pas tout blanc ni tout noir, mais il est féroce, violent, véhément. Je pense que c'est un camarade insupportable. Hein. Mais cette affaire de crime est très particulière. J'en suis arrivé, si je peux le dire, en une minute, même pas.
Vas-y.
Finalement, l'homme qu'il va tuer dans un duel, après une bataille de jeu de paume à Rome, bah, au fond, c'était un sale type. C'était un proxénète. On a cru pendant longtemps que c'était un homme de bonne famille, mais il l'était, mais c'était aussi un proxénète. Et finalement, c'était une altercation pour une femme, et cette femme, c'était la Judith. C'était Filide Melandroni, le modèle de Judith, qui était une prostituée, et il a tué le proxénète, voilà, celui qui s'occupait de cette femme. Voilà, j'ai de l'indulgence, c'est vrai.
Merci beaucoup, de l'indulgence et de la passion. Merci beaucoup, Yannick Haenel.
Merci à vous.
La solitude Caravage chez Fayard.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on va se quitter avec un spectacle d'un genre inédit, un ovni qui mêle différentes disciplines. Il s'appelle Grande. Il se joue en ce moment au 104 à Paris. Fanny Blechner.
Bonsoir. Bonsoir. On va commencer le spectacle par la fin.
Sur le sol du plateau, un tas d'inscriptions. Sur la scène, un farfouillis d'objets, puis deux pôles majeurs, un immense toboggan vertical qui culmine à 8 mètres de haut et un espace sonore avec synthétiseur, mixage et micro. Au milieu de ce capharnaüm, Vima Laponce et Thyriac Arrivel, durant près de 2 heures, le duo va multiplier ce qu'on pourrait qualifier de numéro poétique. D'ailleurs, le nom du spectacle laisse ouvert le champ des possibles. Vima La Ponce.
Grande, parce que grande revue, mais pas envie de mettre un titre aussi évident. Et puis surtout, référence à Robert Fillou, un artiste plasticien génialissime, qui avait écrit des poèmes courts à compléter chez soi, où il y avait comme ça, en fait, une liste de choses qui faisaient poème, puis un endroit à compléter, et il marquait la fin du poème. Et donc, comme c'est un spectacle sur des listes incomplètes, voilà pourquoi un adjectif sans réponse.
Vimala, que l'on retrouve tantôt en chanteuse, tantôt en stripteaseuse, en danseuse, en comédienne, jouant des claquettes ou bien acrobate, avec aussi bien une machine à laver qu'une grande colonne en équilibre sur la tête. Un rythme effréné et difficile à tenir.
Tu passes d'une chose où t'es dans une certaine émotion de jeu, puis après tu vas faire de la musique, et puis un réglage de synthétiseur, puis après tu vas manipuler un moteur, puis courir à fond, tenir un équilibre, ou chuter, ou avoir plein d'endroits, de zones de concentration comme ça, très différentes, et d'être serein à l'intérieur, ça relève de la méditation active, je crois.
Les numéros se succèdent donc sur un tempo très intense qui ne laisse aucune place à l'approximation. Il y est question d'une histoire d'amour pour le moins déstructurée.
Je me dis, et si c'était ringard et mélancolique ? Une idée me vient. Et si cette fois, je ne m'accrochais pas ?
Le spectacle est ainsi séquencé en différentes revues comme différents chapitres qui se répondent les uns aux autres, comme l'explique Tsaria Carivel.
On peut dire que c'est du cirque, on peut dire aussi que c'est du musical. Le travail tourne beaucoup autour de la musique et de la performance physique. C'est pour ça que nous on s'est rapprochés du musical, parce que historiquement c'était un frère du cirque. Et c'était aussi un médium qui était beaucoup plus ouvert et qui a assimilé plein de pratiques aussi qui étaient plus rigolotes que le cirque, et pas forcément que physique.
Tsaria Carivel qui s'envole régulièrement à plusieurs mètres du sol avec la complicité de divers objets. Il s'est d'ailleurs blessé lors d'une représentation il y a 1 an et demi. Dans cet extrait, il est suspendu à une porte.
C'est n'importe quoi, elle est fermée, tu peux me dire ? Tu crois que tu peux te murer ? Non, tu peux pas faire ça ! Tu peux pas faire ça ! Tu pouvais au moins me donner les clés pour comprendre la situation, mais tu me laisses toujours en dehors de tout !
Le travail pour ce spectacle s'est fait strate par strate à partir de la musique, et les mots y trouvent une résonance particulière.
Comme quand on est enfant, on dit que la bouteille d'eau c'est une mitraillette, et donc tout d'un coup, en fait, ça fait basculer la chose dans un truc ludique et à la fois, si jamais ça réussit, poétique aussi. C'est de ça dont les fondements du cirque sont faits. Ça pose des questions existentielles sur un acte très simple qui est, par exemple, chuter. La caisse de résonance que t'essayes d'offrir à une chute, par exemple, c'est l'écriture que t'essayes de faire du spectacle pour que cette chute soit à la fois une chute et puis plein d'autres chutes, par exemple, je sais pas, une descente d'organes aussi, ou une émotion négative.
Côté émotion des spectateurs, spleen, admiration, peur et rire au programme de cette parenthèse onirique.
Reportage de Fanny Blechner-Grande à découvrir au 104 à Paris jusqu'au 2 mars. Et puis notez que Vima La Ponce et Tsaria Carivel viennent aussi de sortir un album autour de la musique du spectacle. L'album intitulé Victoire Chose. Restez avec nous sur RFI dans un instant. L'info, à demain et vous m'en direz des nouvelles.